à mon tour de vous saluer. Bravo de vous dégager dans votre emploi du temps pour réfléchir à cette question qui nous concerne finalement tous, à tout âge, que la question du pouvoir dans la Bible. Je suis content que les Jeux Olympiques n'aient pas encore commencé, ce qui fait qu'il y a une certaine liberté hein, par rapport à d'autres passions qui peuvent remplir nos emplois du temps. Pas vrai ? La question du pouvoir dans la Bible, les premiers seront-ils les derniers ? Les premiers. Il y a une brochure de la FEPS, de la Fédération des Églises protestantes de Suisse, qui avait ses médailles sur la présentation et le commentaire autour d'une réflexion sur les 500 ans de la Réformation, disait « les derniers seront les premiers, sans blague ?» Point d'interrogation et un commentaire. Le discours religieux parle souvent d'un rétablissement des pauvres et des humiliés, les derniers. Mais dans l'au-delà. Or, le christianisme est nourri d'une espérance qui s'inscrit dans l'histoire. La venue du royaume de Dieu s'accompagne de signes de changement dans le monde, donc dans la société, à commencer par cette société chrétienne qu'est l'Église. Dans notre monde, les derniers restent souvent les derniers. Le premier, souvent les premiers. Et les enfants des premiers, souvent les premiers aussi, sauf s'ils se droguent. Ou s'ils se suicident. C'est moi qui ajoute le commentaire, vous avez remarqué. Mais c'est vrai qu'il y en a qui peuvent se payer une meilleure santé et de meilleures formations. Et que les pauvres ne peuvent pas nécessairement se permettre, même dans le cas d'une école ouverte à tout le monde. C'est encore le cas en France et en Suisse. Qu'est-ce qu'être premier et dernier selon notre monde et selon Dieu, déjà, du reste ? Faut-il présenter la foi chrétienne comme une idéologie égalitaire ou égalitarienne ? Oui, vous voyez, il y a pas mal de sujets sur lesquels on peut rebondir ensemble. Le sujet qui m'intéresse, moi, c'est la question du pouvoir. Et j'avais un slogan qui m'était parvenu à l'époque, il y a déjà pas mal de temps, par un ancien secrétaire du Conseil œcuménique des Églises qui s'appelait Philippe Potter. Je ne sais pas si ça vous dit quelque chose. Et il l'avait intitulé, une brochure, « L'amour du pouvoir ou le pouvoir de l'amour ?» Et j'ai pensé que c'était très fin et très intéressant. « L'amour du pouvoir ou le pouvoir de l'amour ?» Et on en vient à une jeune croyante qui s'appelle Marie. Et vous connaissez certainement les débuts de son cantique. Visitée par l'ange, visitée par Élisabeth, et puis porteuse du sauveur du monde, du Messie. Vous connaissez le Magnificat qui commence par mon âme. Magnifie le Seigneur et se réjouit en Dieu, mon Sauveur, etc., etc., parce qu'il a jeté. Et les amis ? Voilà. Il a jeté les yeux sur son. Et ça continue. Comme si tout d'un coup, ce petit bout de femme qu'ils appellent Marie, dont l'âme magnifie le Seigneur, commence à dire pourquoi son âme magnifie le Seigneur. Et du coup, on a l'impression qu'elle devient une sorte de zélote, de batailleuse, qui a la rage. Écoutez la fin de son cantique. « Car Dieu a dispersé ceux qui avaient dans le cœur des pensées orgueilleuses. » Jusqu'à là, ça va, c'est dans le cœur. Hein. « Il a renversé les puissants de leur trône. » Et du coup, on se demande si elle est née en 1789. Hein. Il a renversé les puissants de leur trône. Il a élevé les humbles. Il a rassasié de bien les derniers, enfin les affamés. Il a renvoyé les riches à vide, comme le jeune homme riche qui n'a pas voulu repartir à vide. Vous vous souvenez ? Ça vous dit quelque chose ? parce qu'il avait de grands biens qu'il ne voulait plus mettre au profit d'une société transitoirement égalitarienne qui s'appelle le projet de Dieu en Jésus, pour de nouveau, puisqu'il est riche, il a sans doute des capacités pour gérer des biens, pour redevenir de nouveau riche jusqu'à un temps de redistribution des biens. Et voilà, c'est ce qu'il avait bloqué. Du coup, là, j'ai quitté déjà le Magnificat, vous avez vu. Je commente. L'Éternel a secouru Israël, son serviteur. Il s'est souvenu de sa miséricorde envers Abraham et sa postérité pour toujours. Les premiers seront les derniers, quand le Messie débarque, les puissants de la concurrence. Ou bien non ? Et du coup, quand j'ai pensé à la thématique, je pensais aussi à Jean le Baptiste, qui a des formules, comme ça, à l'emporte-pièce. Il a remonté les bretelles à des gens religieux qui venaient pour éviter la colère, mais pas pour changer de vie, vous savez ? Les gens qui vont à l'église pour le pardon, mais pas pour changer de style de vie. Ça existe, non ? Ils se trompent d'évangile. Jean le Baptiste qui dit, dans l'évangile selon Luc, chapitre 3, verset 5, « Toute vallée sera comblée, et toute montagne et toute colline seront abaissées. » Vous imaginez le nivellement ? Alors, vous êtes d'accord avec moi ? Que le Christ, Messie Jésus, n'est pas venu pour rendre la terre plate. Hein. On est bien d'accord que ce n'est pas littéralement qu'il faut le prendre. Vous êtes... Si ce n'est pas littéralement, au cas où, vous vous ouvrez à cette possibilité, il y en a qui sont plus comme des creux, il y en a qui sont plus comme des bosses dans la vie. Hein. Des gens remplis d'eux-mêmes et de leurs prérogatives et de leur pouvoir, et des gens qui sont juste l'inverse. Des gens qui manquent de dignité. Eh bien, qu'est-ce qu'il arrive ? Les vallées seront comblées et des montagnes d'orgueil seront rabaissées. Enfin, j'interprète. Si ce n'est pas comme ça, vous me dites comment on peut le comprendre. Repentez-vous, car ceci va advenir quand le Sauveur et le Seigneur débarquent. Alors, j'aime bien les images. Je vous montrerai un certain nombre d'images, elles ne sont pas neutres. L'une, c'est la révolte des paysans de l'Emmental bernois pour des raisons économiques et vont à Berne. Vous avez vu un peu l'émotion qui les remplit ? Ils ne vont pas pour louer les souverains de Berne. Ils vont pour remonter les bretelles, pour dire « ça ne va pas comme ça, comme vous nous traitez ». D'accord ? J'ai rien contre les bernois, hein ? Je veux dire... Et puis de l'autre côté, quand j'étais en Guadeloupe, j'ai photographié un tag qui est une gueule, où il sort des choses, du fiel, de la colère, une gueule ouverte, un cri. Et je me suis souvenu, et ils vous le diront, et vous le diront volontiers, je ne parle pas des riches propriétaires du lieu, mais des descendants d'esclaves, qu'ils ont quelque chose qui les anime encore toujours. Et qui est symbolisé par ce tag. La puissance, c'est le sujet. Jean Calvin, que je cite pas toujours pour l'approuver, mais ici, je vais l'approuver. Il a écrit un livre sur qui s'appelle « Le traité des scandales ». C'est tardif, 1550. Jean Calvin, il dit « Il y a des scandales, il y en a qui prennent prétexte des scandales de l'Église qui ne vit pas comme elle vivrait pour quitter la foi ». Or, c'est les hommes qu'elle devrait critiquer, c'est pas Dieu. Ils prennent prétexte de ce que l'Église n'est pas nécessairement comme Jésus le voudrait pour quitter la foi plutôt que d'adorer le Seigneur qui a une parole critique sur cette manière de vivre. Et notamment, il dit que l'effet de l'Évangile dans une vie par rapport aux puissants serait plutôt humilier la fierté de ceux qui s'élèvent trop. Il n'est pas contre le fait qu'il y ait des puissants, mais qu'ils s'élèvent trop dans la fierté, ce qui fait que leur puissance, leur pouvoir est géré d'une manière maltraitante pour les autres. Dans une autre phrase, il dit « Dieu ne commande point aux grands de descendre de leur hauteur afin que ceux de basse condition viennent occuper leur place en usurpant le droit d'autrui. Autrement dit, ce n'est pas pour ça que le Seigneur est venu. Pas pour faire des nouveaux potentats à la place des vieux. Et c'est une bonne question qu'on peut se poser, nous. Admettons qu'on ait plus de pouvoir. Comment on gère ce pouvoir ? C'est facile de critiquer les pouvoirs, c'en est une autre, d'en avoir et de faire que ce pouvoir serve. Donc ça, c'est intéressant à considérer. Le scandaleux ou l'abus ne doit pas être imputé à l'Évangile, mais aux humains et aux forces, précisément de l'anti-messie, de l'anti-Christ. L'antichrist est une force récurrente depuis les épîtres de Jean, où Jean, à l'époque déjà, au 1er siècle, disait « Ils sont nombreux, ils sont déjà ici présents, actifs. Par conséquent, n'ayez pas qu'une vision futuriste de ce que c'est que ces forces antichristiques, elles sont à l'œuvre d'une manière récurrente au travers des siècles. » Et bien entendu, elles s'habillent d'un discours religieux aussi. Alors ce soir, j'ai un menu, je vous le présente, après une introduction encore sur... appel à la conversion du pouvoir, les premiers seront les derniers vraiment, une introduction. Premièrement, j'aimerais définir et situer nos pouvoirs, le pouvoir, déjà le définir. Deuxième point, j'aimerais avec vous regarder la Bible. Ancien, Nouveau Testament, où y a-t-il des chapitres intéressants pour définir le pouvoir ? Troisièmement, j'aimerais prendre avec vous ce livre d'histoire ouverte qu'est l'histoire de l'Église, pour essayer de voir en positif ou en négatif ce qu'on a fait du pouvoir au travers de la chrétienté. Quatrièmement, j'aimerais revoir d'où viennent les moteurs des abus. Quand il y a abus, il y a des intentions derrière. Et enfin, les lieux de transformation et d'apprentissage. Vous n'avez pas le choix, c'est le menu que je vous ai préparé. Les premiers seront les derniers, se retrouvent à différents endroits dans les évangiles. D'abord, ils aiment à être les premiers dans les synagogues pour être vus des hommes, qui n'attendent pas de récompense. Ils l'ont déjà reçu. Ils voulaient être vus des hommes, ils ont eu ce qu'ils voulaient, être vus des hommes. Par conséquent, ils n'auront pas de récompense dans les cieux. Ça, c'est la logique typique de notre Seigneur Jésus. Et ça pose la question de l'intention. Quelle est l'intention derrière l'acte que je pose ? C'est quoi le but ? Qu'est-ce qui me fait avancer ? Qu'est-ce qui me fait agir ? En fait, tous ceux qui vivent ont ce petit moteur intérieur, ce petit fourneau intérieur qui leur fait désirer quelque chose. Sinon, ils ne vivraient plus. Mais quand j'agis, pourquoi je le fais ? Quelle est l'intention derrière ? C'est une bonne chose. Alors, les premiers sont appelés au travail, nous l'avons évoqué dans la parabole, où différentes personnes sont appelées à différents moments d'un travail à faire, et le propriétaire donne au dernier venu d'abord leur salaire, le salaire équivalent de ce qu'il donne au premier venu. Injustice, non ? Sauf si on sait que dans toutes les gamelles de ses employés, il y a des familles qui veulent manger. Et dans quel cas on peut dire, ben le propriétaire, il est bon. Mais si on est les ouvriers la première heure, c'est pas une bonne nouvelle. Donc c'est dans ce cadre-là que l'on retrouve les derniers seront les premiers et les premiers seront les derniers. Mais également dans un autre cadre. Ce même verset dans Matthieu 19, verset 30, c'est le jeune homme qui avait de grands biens et qui aimait Dieu. Et le prochain, qu'est-ce que je dois faire pour avoir la vie éternelle ? Il savait la réponse. Mais ces grands biens ont empêché la redistribution nécessaire où Jésus lui aurait dit « Il y a les qualités nécessaires pour toi pour rebondir. Tu es déjà avantagé dans les qualités d'éducation que tu as reçues. » Il ne lui a pas dit comme ça, mais c'est ce que veut. « Viens et suis-moi. Donne tes biens aux pauvres. Ta richesse est ailleurs que dans le cumul de tes biens. Elle est en toi. » Mais ça, ce n'était pas suffisant. Du coup, le royaume de Dieu était un peu comme fermé pour lui. Et c'est dans ce cadre aussi qu'il est dit, lors du renouvellement de toutes choses, Jésus dit, « Lors du renouvellement de toutes choses, plusieurs des premiers seront les derniers, Plusieurs des derniers seront les premiers. On retrouve également dans Marc chapitre 10, 31, les disciples qui, à un moment donné, avaient tout quitté pour suivre Jésus, et Jésus leur dit, il n'est personne qui ait quitté quoi que ce soit dans ce monde, qu'il ne le retrouve dans ce monde au centuple et dans le monde à venir, la vie éternelle. Alors ce qui est intéressant, c'est que ce n'est pas seulement dans l'au-delà, c'est déjà dans ce monde-là qu'il est profitable de suivre les programme de Jésus. Ça, en réponse à ce que la FEPS avait publié tout au début en disant « c'est facile de dire que ça n'aura lieu que plus tard ». Dans Marc chapitre 10, verset 31, enfin, les disciples ont quitté le confort de Jésus. Et puis, il y a ce contraste entre ceux qui font le mal en Israël et ceux qui auront quitté leur confort pour la justice du royaume. Et c'est dans ce cadre-là qu'il est dit également qu'il y a des gens de partout qui se réjouiront de la communion des saints, mais certains qui étaient appelés, mais qui, à cause du fait qu'ils acceptent de faire le mal tout en ayant l'orthodoxie du culte en Israël, qui ne seront pas de la communion des patriarches et des prophètes. Dans l'Évangile selon Luc, chapitre 13. Donc, si vous voulez, c'est intéressant ce retournement du symbole des forces. Les premiers seront les derniers seront les premiers, et ça vaut la peine qu'on y réfléchisse. Dans ce chapitre-là, j'aimerais avec vous donner une définition au pouvoir. On ne le fait pas beaucoup. Le pouvoir est la capacité de faire à quelqu'un ou à une machine quelque chose, ce que vous voulez qu'il fasse. Ça, c'est juste pour dire que nous avons tous du pouvoir. Aussi, la capacité d'agir pour un autre. C'est du pouvoir. Alors, quand je pense au pouvoir, on pense en général pouvoir des médias. Et c'est vrai. Le pouvoir d'influence dans les journaux qu'on lit n'est pas neutre. Hein. C'est la raison pour laquelle il y en a qui se battent pour diriger les équipes rédactionnelles ou pour faire disparaître certains journaux. Ça existe, non ? C'est pas d'actualité ? Dites-moi à quoi vous vous exposez, je vous dirai comment vous pensez. Le Christ l'aurait dit autrement. Il a dit, là où est ton trésor, c'est-à-dire ce que tu regardes, là est ton cœur. Attention à ce qui nous formate au niveau des pensées. Le pouvoir de l'État, le pouvoir de l'armée, le pouvoir des banques, le pouvoir des lobbies, les pouvoirs des transports ou de l'absence de transports en commun, le pouvoir des infrastructures, le pouvoir de l'accès à des ressources et à leur contrôle. Et croyez-moi, cette guerre-là, elle bat son plein depuis longtemps et c'est pas fini. Des fois, il y a des gens qui veulent les ressources d'autres pays, qui font passer des fake news, des nouvelles fausses. Vous pouvez m'aider, les traducteurs là ? Pour que nous nous indignions suffisamment pour qu'ils aient le droit d'envoyer l'armée pour détruire les autres, afin d'avoir la main mise sur les biens d'un pays. Vous croyez qu'on est aussi tordu que ça ? Non ? Ça révèle aussi le fait qu'on est trop optimiste par rapport à l'exercice du pouvoir humain, ou trop pessimiste, ça existe aussi. Hein ? Qu'est-ce qui est trop ? Qu'est-ce qui est bon ? Vous voyez la nécessité, l'utilité de définir ce que c'est qu'un pouvoir selon Dieu. Le pouvoir de contrôle de l'eau, dans certains pays, c'est un pouvoir énorme. Le pouvoir de contrôle du pétrole, des vaccins, de l'honneur, de la technologie, des semences, de la santé, des renseignements. On pourrait passer le pouvoir aussi de la peur. Moi, je pense que beaucoup de gens, ils sont au pouvoir de leur anxiété. C'est parce qu'ils sont anxieux qu'ils ne font pas quantité de choses. La pouvoir de la peur est énorme sur moi, sur vous, sur nous, sur la société en général. Le pouvoir de la force, le pouvoir occulte, le pouvoir de la bienveillance aussi. Vous savez, le mal est contagieux. C'est intéressant de voir des enfants, le premier qui met, hein, ça déclenche l'autorisation pour les autres de chercher aussi la friandise. Hein. Mais le pouvoir du mal est contagieux, mais le pouvoir du bien est aussi contagieux. Ah, ça fait du bien. Et du coup, naît une idée de l'exercice d'un pouvoir qui serait pour le bien. Le pouvoir de la force et de la contrainte. Nous vivons un beau pouvoir en ce moment de respect des religions, des idéologies, je pense, et de la liberté de penser pour le moment. Ça n'a pas toujours été le cas. La contrainte des consciences est quelque chose qui nous paraîtrait, à nous, maintenant, insupportable. Pourtant, dans les 2000 dernières années, ici même, c'est ce qui dominait. Jusqu'à la Révolution française, à peu près, et même après, le pouvoir de l'exemplarité, de l'expression, des pratiques innovantes, mais aussi sur le plan individuel, de nous situer devant nos voisins. J'ai du pouvoir avec mes voisins. Je les salue ou je ne les salue pas. Je leur propose une aide quand c'est opportun ou pas. Je ne parle pas de l'aide quand ce n'est pas opportun, hein, c'est autre chose. Le pouvoir de me situer avec mes collègues. J'ai un pouvoir. Je sais écrire, je sais compter, c'est un gros pouvoir. J'ai la liberté de le mettre à profit devant ceux qui ne le savent pas ou pas. C'est un pouvoir. Le pouvoir de conduire mon véhicule. Je peux me situer d'une manière agressive ou plutôt polie. Hein, mais c'est un pouvoir. Vous êtes d'accord là-dessus? Le pouvoir de traiter le conjoint d'une certaine manière. Un pasteur a le pouvoir d'envoyer paître ses brebis. C'est pas le charge pastorale. C'est de l'abus, peut-être. Mais ça révèle ce qu'il y a en nous. Je ne sais pas si vous avez déjà pu parler avec des personnes par le passé de vos propres violences intérieures. Il n'y a que moi qui ai des violences intérieures. Qui des fois ressemblent plutôt à des cocottes minutes qui ont de la pression et qui attendent que des bons moments pour exploser. Vous me dites hein, si je suis plus pathologique que vous. On peut exploser vers l'extérieur ou vers l'intérieur, c'est toujours la même explosion. Hein. Le pouvoir. Le pouvoir de l'éducation, de traiter les grands-parents d'une certaine manière ou pas. Ou les enfants, quand on a la grâce d'en avoir, etc. Alors, j'arrive, deuxième point, le regard sur la Bible. J'aime bien cette Hans Schnorr von Karlsfeld, c'est le graveur. C'est pas dans la Bible, cherchez pas. J'aime beaucoup. Jésus enseigne, il y a un premier cercle des disciples, et ensuite il y a la foule, d'accord? C'est le serment sur la montagne, Matthieu chapitre 5, déjà vu, hein? Mais ce que j'aime bien, c'est qu'il y en a un qui a sa main sur l'épée. Il dit, est-ce qu'il est sérieux ce type-là? Hein? Vous le voyez? J'aime ce détail, hein? Moi ça m'a toujours... Et quelque part, quand on écoute le Christ définir les choses, c'est autre chose que si on écoute le gouvernement fédéral. En certains points. Si on commence par la Bible, où est-ce que vous commenceriez? À part moi, commencez pas avec Calvin, avec Caïn, pardon. Il y a un pouvoir déjà dans le mandat de la création. Vous connaissez ce mandat? Cultiver la terre, gérer le jardin, donner des noms aux animaux, c'est un pouvoir. Nommer les choses. C'est un pouvoir bon. Ensuite, il y a comme un accident, où il y a un coup, un serpent dans le cou, dans la torsion des choses, le serpent est maître en art. Il ne peut que tordre, il ne peut pas créer. Rien de matériel qui existe dans ce monde n'appartient au propre au serpent. Vous aimez cette théologie? Il ne peut que tordre. Aucun objet ne lui appartient, mais il ne peut que tordre les bonnes choses. Que les bonnes choses, parce qu'il n'y a que des bonnes choses. Le pouvoir en est un, et nous allons le voir. Il y a ce qui se passe avec le meurtre que Caïn va opérer vis-à-vis d'Abel, juste pour une histoire de comparaison d'offrande au Seigneur. Il est dit ici, et je trouve ça très intéressant, par rapport au lieu de résistance de l'abus de pouvoir. Ici, c'est le Seigneur qui dit à Caïn, avant qu'il ait commis son acte, « Pourquoi t'irrites-tu ? » Vous savez la cocotte minute dont j'ai parlé, l'irritation. Vous, on peut vous allumer sur certains points et votre conjoint sait sur quel point. D'accord ? Et vos points d'allumage ne sont pas les mêmes que les miens. Vous êtes d'accord avec ça ? Alors, je ne vous dis pas, dans une église, tout d'un coup, on voit des gens qui réagissent sur des sujets parce que ça correspond à leur point de sensibilité. D'accord ? Ici, dans l'Évangile, dans Genèse chapitre 4, il est dit « Pourquoi t'irrites-tu ? Si tu n'agis pas bien, le péché tapis à ta porte, tapis à ta porte, c'est comme une bête fauve qui est prête à sauter, d'accord ? Le péché va te manger. Tapis à ta porte, te désire, mais toi, domine-le. » Et là, on retrouve un langage du pouvoir. Le langage du pouvoir a un trait à la résistance au mal. Nous ne sommes pas impuissants devant le mal qui nous dirige, soit par son amorce intérieure, soit par la force extérieure de conformité. On y viendra. Le principe qui est ici présent et qui est un principe que Dieu donne, c'est le principe de la capacité de répondre de ses actes, peut-être pas toujours de ses émotions. Monsieur Caïn aurait pu calmer sa cocotte minute. Et effectivement, ça peut se calmer en disant « Caïn, tu n'as pas raison de te mettre cette fois-ci en colère. Elle n'est pas sainte, ta colère. » Ce dialogue intérieur est le dialogue de quelqu'un qui domine sur la violence intérieure. Le principe de responsabilité et de ses orientations mentales et de ses actes est posé par la question « Où est ton frère Abel ?» Dieu demande à Caïn de rendre compte de son rapport à Abel. Et le Christ, quand il va restaurer un culte qu'il honore, nous rappelle toujours, si tu apportes ton offrande au temple et que tu te souviens que là, que ton frère a quelque chose contre toi, laisse ton truc religieux de l'offrande, va d'abord te réconcilier, ensuite viens, parce que c'est réconcilié qu'on se présente devant le Seigneur. Juste pour dire que la question du pouvoir du rapport à autrui est une question prioritaire. Pour le Dieu d'Israël. On continue. Tout d'un coup apparaissent ce qu'on appellerait aujourd'hui les autorités. Jusqu'à là, il n'est pas question d'autorité. Mais quand il est question de Hénoc, la ville, vous savez, l'une des premières grandes villes dont, que la Bible nomme s'appelle Hénoc. C'est un fils de Caïn. Caïn fuit l'Éternel. Caïn fonde une ville. Genèse 4, 17. Plus tard, Lémec, qui est plusieurs générations après Hénoc et plusieurs générations par conséquent après Caïn, décidément, c'est une obsession. Plus tard, Lémec, nous dit la Bible, prit deux femmes. Tout d'un coup, drôle de précision. Apparition de la polygamie. N'allez pas dire que c'était toujours comme ça. Là, dans Genèse 4, verset 19, l'apparition de la polygamie, sans doute, et c'est une question du pouvoir, messieurs. Vous êtes sensibles au charme féminin, vous aussi ? Vous aussi ? Un frère, les autres. Je suis sensible au charme féminin. D'accord ? Non, mais ça va mieux en le disant. Hein. Et vous pouvez même louer le Seigneur avec ça. Vous ne péchez pas. Mais là, il est question non seulement du désir, mais du désir roi et autonome. Voici. Il prend deux femmes, apparition de la polygamie, sans doute une pour la procréation et une pour le plaisir de Lémec, et vice-versa. Et sans doute qu'après, ce n'est pas dit dans la Bible, quand elles sont plus vieilles, il y a d'autres choses qui se passent. Et démesure de la vengeance. Si Caïn sera vengé 7 fois, moi, si quelqu'un me touche, je me venge 77 fois. 77 fois. Des mesures de la vengeance. C'est un pouvoir. Moi, je dis que mon droit dit que si on me touche, je fais 77 fois plus de mal à autrui. C'est du droit. Pas 78, 77. Vous comprenez, ça limite un petit peu la violence, mais quand même, c'est la veine d'État quand même. Hein, vous comprenez, la question du pouvoir pose souvent la question du droit. Et ce que je trouve intéressant quand je prends toute la Bible, qui est un monument historique, étalé dans le temps, c'est qu'il y a la justice de relations harmonieuses, rompues, la vengeance quasi illimitée, limitée par une vengeance, un œil pour un œil et une dent pour un œil. Pas si tu me casses une dent, hein, non intentionnellement je te casse tout le dentier, c'est démesuré, c'est une dent. Ça s'appelle la loi du talion. Et on arrive à la loi du talion. C'est un pouvoir qui est déjà un progrès sur la vengeance illimitée, vous concédez. C'est un progrès. Mais après, on arrive à une justice qui va beaucoup plus être restauratrice que la loi du talion, que le Christ va introduire et que les prophètes ont prédit. Et j'y viens. On voit que ici, dans le livre de la Genèse, on construit des villes fortifiées. À quoi ça sert ? Pour se défendre contre l'autre qui veut attaquer, mais aussi pour régner sur les autres villes mineures et qui deviendront des villes satellites. Le pouvoir, c'est ça. La fortification et l'armée et l'armement, c'est ça. Ce n'est pas que défensif. C'est aussi pour un équilibre d'ego dans un monde où la méchanceté est introduite. L'équilibre des terreurs et la politique de puissance apparaissent les autorités. Avec les autorités, vous avez Babel. Vous allez me dire, il va passer toute la Bible. Oui. On y vient. J'aimerais vous dire, j'essaye d'enseigner comme quelqu'un qui, dans une cathédrale, fait, avec des petits bouts de verre, de couleur, un beau vitrail. C'est qu'à la fin qu'on voit s'il y a une cohérence d'ensemble. Ici, Babel. Babel, une masse astreinte à la corvée pour le service de puissants qui disent qu'ils tiennent leur puissance de Dieu. Et la Bible va attaquer très fortement ces définitions de la puissance. Les puissants tiennent leur force de Dieu. Roi de droit divin. Vous ne contestez pas quelqu'un qui est de droit divin, parce que vous contestez Dieu. Et l'Écriture va déconstruire cette divinisation du pouvoir pour dire que le pouvoir doit être servant et pas asservissant. C'est deux choses très différentes. On va le voir. On réalise peu à peu que le pouvoir divinisé le mène en bateau au profit d'une minorité. Alors la communication ne passe plus, les langues se brouillent, le chantier s'interrompt. Et les images classiques du pouvoir que vous allez voir, ce sont des images qui font peur. Vous avez déjà vu les palais assyriens, vous avez déjà été en Égypte peut-être. Il y a l'éclat de la lumière. Je suis une émanation du soleil. L'oiseau de proie qui fonce sur ses proies. Les pattes et la gueule du lion pour les Assyriens, ce sont des images. Et le cobra sur... Non ? Jamais vu ? Si ? Ce sont des images ou l'image d'un grand arbre qui accepte sous son ombrage et qui donne du fruit à toutes sortes de gens. Le grand dragon, même repris dans l'Apocalypse, au sujet du pharaon du Nil, le grand dragon du Nil. Et le berger, le mot berger, pasteur, est avant tout un titre politique. Les bergers d'Israël, c'est le roi d'Israël. Et souvent, loin de chercher à élaborer une politique pour le faible, des puissants ont fait une politique pour leurs intérêts au détriment du faible. Et le faible, classiquement, en Israël, c'est l'orphelin, l'étranger, la veuve. Ce qui est intéressant, c'est que quand il est question de l'abus de la puissance au détriment de gens, il y a un interférent. Cet interférent, c'est l'Éternel entendit les cris. Et ça, je trouve tellement remarquable. Indispensable de parler de ça. L'Exode, c'est la grande redéfinition de ce que c'est qu'un pouvoir selon Dieu. En fait, le pouvoir, c'est lui qui l'a. Et il va faire plier le plus puissant potentat qui existait dans l'univers connu de l'époque. Dieu confronte le pouvoir, mais la manière dont il a de confronter le pouvoir est assez extraordinaire. Et nous apporte aussi une leçon via la parole. Il n'a pas mis une autre armée de métiers devant la plus grande armée de métiers opérationnels de l'époque. Il a utilisé un prophète. Laisse partir mon peuple afin qu'il me serve, c'est-à-dire dans la liberté et pas dans l'asservissement. Et cette parole a été confiée à Moïse et a été accompagnée de signes miraculeux. C'est de là que viennent aussi pour le Nouveau Testament la signification des signes qui accompagnent ceux qui annoncent la parole. Ici, on voit une confrontation des pouvoirs. L'Exode est quelque chose de très important pour nous aider à définir ce que c'est que le pouvoir. Le peuple lui-même peut pratiquer la discrimination, même si on s'appelle Israël, même si on a un culte orthodoxe avec les plus beaux instruments qui puissent exister. Même si on chante que les psaumes, et que la vie derrière est une vie asservissante dans les relations, ça ne vaut pas. Et on trouve tout d'un coup que non seulement il envoie contre des tyrans, mais aussi pour corriger son peuple, qui porte son nom et sa gloire, et donc la réputation de ce Dieu créateur des cieux et de la terre par rapport aux autres nations. On trouve, par exemple, dans Amos chapitre 2, qui est l'un des plus vieux prophètes que nous ayons dans le Nouveau Testament, ainsi parle le Seigneur, à cause de 3 et à cause de 4 rébellions d'Israël, je ne révoquerai pas mon arrêt, parce qu'ils ont, pas seulement adoré des faux dieux, mais aussi vendu le juste pour de l'argent et le pauvre pour le prix d'une paire de sandales. Si une personne ne vaut pas plus qu'une paire de babouches, qu'est-ce qui vaut pas cher aujourd'hui, par exemple? Des babouches? C'est en horreur pour le Seigneur. Et par conséquent, il corrige cette incorrection par rapport au pouvoir de traitement des autres en disant, là, vous apportez votre propre malheur. Et ça, c'est intéressant. La durabilité d'une société est mesurée dans le Nouveau Testament et l'Ancien Testament par la manière de traiter les petits. Regardez la manière de traiter les minorités et vous comprendrez ce que vaut une société. Et habituellement, nous ne regardons pas comme ça. Nous regardons au PIB, nous regardons au nombre de soldats et d'avions de guerre qu'on a pour dire on est fort, puissant ou pas. Mais là, c'est autre chose. On est puissant ou pas, on est en sécurité ou pas, vient plus de la manière de traiter les minorités et les pauvres que la manière d'avoir accumulé les fonds dans les banques et dans les entrepôts d'armement. Le prophète d'Israël sont souvent des empêcheurs de tourner en rond. Ce sont des gens qui vont à l'injustice, donc à l'usurpation du pouvoir. Maintenant, il est intéressant de voir que Israël, à un moment donné, a dit « ça suffit ce truc de suivre le Seigneur et sa voix, c'est pas très confortable pour le consulter surtout. Nous, regardez les autres nations, ils ont l'apparat de proie. Nous voulons un roi comme toutes les autres nations. » Vous connaissez cette situation où Israël veut un roi comme toutes les autres nations? Ça vaut la peine de regarder le fait que finalement, le Seigneur concède à Israël ce qu'Israël veut absolument, c'est-à-dire du muscle. Du muscle humain, pas du muscle spirituel. Mais dans la concession qu'il donne à Israël, ça vous pouvez le lire chez vous, Deutéronome 17 ou 1 Samuel chapitre 8 verset 5 et suivant, 1 Samuel Deutéronome. Le Seigneur dit au travers de son prophète, il dit à Israël, le pouvoir, d'accord, un roi, je veux bien, mais il faut que ce soit un frère. Pas quelqu'un au sang bleu, hein, un frère. Il ne faut pas qu'il ait beaucoup de chevaux. Ce n'est pas de sa voiture dont il est question ici, c'est les armes de guerre. Pas beaucoup. Vous connaissez des nations qui fonctionnent comme ça? Pas beaucoup de chevaux. Troisièmement, pas beaucoup de femmes, harem. Et Harem signifiait pas juste sexualité, ça signifiait aussi lien avec les enfants des rois des nations environnantes, et donc traité d'alliance, de défense mutuelle. Lire la Torah tous les jours, vous savez, la Ligue pour la lecture de la Bible recommande de lire la Bible tous les jours, vous savez d'où ça vient? Ça vient du devoir du roi. Le roi devait recopier la Torah tous les jours, et il est dit pourquoi? Pour apprendre à craindre l'Éternel sans devenir orgueilleux devant ses frères, Deutéronome 17. Pourquoi lire la Bible? Pour rester une créature et pas un Dieu. La tentation de se prendre pour Dieu quand on a du pouvoir est énorme. C'est-à-dire de légiférer selon ses propres envies et intérêts. Vous comprenez? Moi, je trouve ça révolutionnaire. C'est intéressant de voir la perspective et enfin qu'il n'ait pas beaucoup d'or. Bon, Salomon, je ne suis pas tout à fait sûr qu'il soit vraiment un modèle selon le cœur de Dieu. David, plutôt. Vous savez, David, il a fait un contre-pouvoir avec des chenapans et des gens de peau. À un moment donné, il a refait un contre-pouvoir, mais il avait surtout une qualité, c'est qu'il pouvait reconnaître ses erreurs quand il en faisait. Et ça, pour quelqu'un qui a le pouvoir, ça sert à la durabilité de la chose. En somme, la sécurité dans la Bible repose sur la justice et fait partie de l'alliance avec le Seigneur et pas d'abord sur l'équipement guerrier et les symboles de force, nous l'avons vu. Et la seule politique de puissance finit par produire la faiblesse. Parce que, imaginez-vous, que vous soyez un potentat, vous allez commander des armes en Suisse, en Allemagne, en Israël, en France, aux États-Unis. D'accord? C'est là qu'on achète. Vous allez dépenser énormément de sous pour les armements. Et qui est-ce qui va se servir des armements? Les meilleurs des enfants valides. Par conséquent, ils seront mobilisés là où il faudrait travailler la terre pour donner à manger au peuple. On se tire des balles dans le pied en pensant que ce sont des bons investissements que de les mettre dans l'armement pour Israël et la révélation biblique. Ça produit les faiblesses. Ensuite, il y a un autre élément qui doit servir. Vous commencez à voir l'image? Vous commencez à voir l'image de ce vitrail? Ça descend. Tout d'un coup, Israël est en exil. Il est en exil tout le temps qu'ils n'ont pas traité correctement leur prochain avec une redistribution des biens. Ça s'appelle la loi du jubilé. J'y reviens pas maintenant. L'exil, c'est le repos de la terre qu'elle n'a pas reçu et le repos des relations. Mais voilà qu'il y a certains des survivants de cette grande Shoah qui était l'exil, où il y a des hommes et des femmes qui refusent d'adorer le pouvoir comme un dieu, parce qu'ils ont un dieu. Ils refusent d'adorer. Vous connaissez ces épisodes dans Daniel 3, verset 6. Je vous rends juste attention qu'ils sont les premiers évangélistes du pouvoir. Et le pouvoir va même être évangélisé à tel point qu'il y a un jour un de ces tyrans qui faisait passer des herses de fer sur les peuples qu'il anéantissait, les herses de fer sur les peuples qu'il faisait coucher, qui dit Nebuchadnezzar, en plein milieu du livre de Daniel, « Maintenant, moi, Nebuchadnezzar, je loue, j'exalte le Dieu des cieux. » C'est lui qui donne le pouvoir. Vous trouvez, au plein milieu du livre de Daniel, l'évangélisation de petites gens comme des Esther et des Daniel a produit du fruit. C'est que sans résistance à ces pouvoirs, il n'y a pas d'évangélisation des pouvoirs. Un pouvoir ne se répand pas tout seul. Un pouvoir ne se répand que s'il y a confrontation respectueuse du pouvoir. Vous avez déjà vu, vous, des gens qui ont des intérêts à leur pouvoir, qui laissent leur pouvoir juste comme ça? J'en connais pas une exception. Et les prophètes disent, les amis, le jour viendra où les nations vont faire un mécanisme de conversion de leurs moyens de pouvoir, qui sont les armes. Et là, vous avez, dans Ésaïe, chapitre 2, ou Michée, chapitre 4, ces gens qui sont des visionnaires qui disent « Le jour, le Messie viendra. Un jour, ils vont convertir de leurs épées, ils forgeront des socs de charrues. » Vous savez à quoi servent des socs de charrues? À travailler la terre pour qu'on ait à manger. Donc j'étais pas si loin, hein, tout à l'heure, en vous rendant attentif au fait qu'on se tire une balle dans le pied en mettant sa sécurité dans les armes. Mais maintenant, ce transarmement, cette conversion du pouvoir, elle ne va pas arriver toute seule. Autrement dit, si je ne suis pas sûr que le Seigneur demande que mes violences intérieures soient tournées pour rendre profitable et vivable le pays, pour qu'il porte du bon fruit, ça n'aura pas lieu. Si je doute que le Seigneur le veuille, je ne le mettrai pas en branle. Par conséquent, se pose la question du Messie. Pourquoi le Messie est-il venu ? C'est un autre chapitre. Vous avez déjà vu certaines choses dans d'autres conférences. Maintenant, il y a quelque chose, un petit bout de verre de couleur que j'aimerais que vous intégriez aussi dans votre dessin d'ensemble. Il y a de la littérature qui s'appelle l'apocalyptique. Pas l'apocalypse, l'apocalypse de Jean, nous connaissons, mais l'apocalyptique est un mode de communication par images et symboles. Pourquoi ? Parce que si je dis la chose claire, je me fais couper la tête. L'apocalyptique est surtout utilisé lorsqu'on est occupé par une nation coloniale ou quand on est en exil. Et la plupart de ces images de cette littérature de communication apocalyptique viennent de l'Exode, quand Dieu est rentré en conflit avec un pouvoir de l'époque. D'accord ? L'apocalyptique, c'est beaucoup d'images. Je ne reviens pas dessus. Il y a l'image de Tyr qui était orgueilleuse, qui maltraitait les autres et qui a connu un jugement de Dieu dans Ézéchiel. Et Sodome, vous connaissez Sodome, des villes entières, ce sont des structures humaines, c'est des modes de des modes de gestion du pouvoir. Et ce qui est intéressant, c'est que dans Apocalypse 18, il est dit d'une autre ville qui s'appelle Rome, ce que Tyr ou l'Égypte a été à une époque donnée, Rome le sera en son temps parce qu'elle fait exactement la même chose. Le prophétie, ce n'est pas juste des choses qui tombent tout bizarres du ciel, c'est des choses qui sont nées dans le cœur d'hommes et de femmes qui ont compris ce qu'il arrive lorsqu'on usurpe du droit de Dieu. Le trafic, la convergence des richesses, l'exploitation des autres, les splendeurs artificielles, l'orgueil des classes possédantes, ce sont autant de pratiques d'usurpation du pouvoir qui se trouvent dans ces villes qui se rebellent. D'ailleurs, on se trompe souvent quand on dit le péché de Sodome. Nous pensons des fois à la pédophilie ou à l'abus d'homme à homme, mais c'est beaucoup plus vaste, où ces deux choses que je viens de nommer ne sont que des cas particuliers de quelque chose de beaucoup plus vaste. Quel est le péché de Sodome ? J'aimerais vous rendre attentif à Ézéchiel chapitre 16. Voici le péché de Sodome, écoutez bien, c'est beaucoup plus vaste. Ézéchiel 16, 49, « Voici quel a été le crime de Sodome, ta sœur. » Il parle à Israël. « Elle avait de l'orgueil. Elle vivait dans l'abondance et dans une insouciante sécurité. Elle et ses filles, donc ce sont des villes ou villages à satellite, elles ne soutenaient pas la main du malheureux et de l'indigent. Quand une société ne soutient pas la main du malheureux et de l'indigent, on maltraite ces malheureux et ces indigents, et c'est alors que vient l'abus sexuel ou économique des autres. Vous comprenez, le péché de cette nation, c'était un péché de définition ou de légitimation d'un pouvoir inique. Ce schéma est assez simple à comprendre, vous voyez une ligne. Chaque fois que ça va sous la ligne, Israël n'est pas chez elle, en Égypte. Vous voyez l'Égypte, première, ça descend. Chaque fois que ça retombe en dessous, c'est l'exil, c'est la deuxième fois. Et chaque fois que ça va en dessous de nouveau, c'est là où il y a la croix, c'est l'occupation coloniale, l'exploitation des pays satellites. C'est là, c'est quand ça va sous la ligne qu'apparaît cette littérature codée. Mais cette littérature codée est très importante pour des gens qui sont sous l'oppression. Quand on est dans l'oppression, on est en danger de découragement. Ça, c'est classique. Sous l'oppression, on est découragé. Et quand on est découragé, on est prêt à quitter la foi. Cette littérature apocalyptique, c'est une révélation de Dieu pour reconstruire l'espérance chez des gens opprimés. C'est la relation d'aide du Seigneur. Et vous savez pourquoi c'est la relation d'aide ? Parce que dans la littérature apocalyptique, il apparaît des monstres. qui ne se trouvent pas dans le zoo de Bâle. Hein. Ce n'est pas des vrais animaux, c'est des monstres, c'est des anticréations à l'œuvre. Et ce qui est intéressant pour quelqu'un d'opprimé, il est des fois tellement opprimé qu'il n'ose pas mettre des noms au mal dont il souffre. Et là, dans l'Apocalypse ou dans le livre de Daniel, les monstres servent à dire comment fonctionne le mal. Ce n'est pas le sujet maintenant, c'est un sujet en soi qui est très intéressant, qui fait partie de notre réflexion. On arrive au Nouveau Testament, Jésus vient comme le Messie de Dieu, pas des prophètes, mais le Dieu lui-même. Et du coup, on voit qu'il est en but d'opposition avec des abus de pouvoir de Hérode, par exemple, qui avait peur pour ses prérogatives. Un roi, un autre que moi, César, pareil pour le Nouveau Testament. Quand l'Apocalypse dit « Jésus est le Seigneur, Kurios », le culte de l'empereur disait « Dioclétien ou bien Auguste, César est le Seigneur ». Vous voyez, c'est intéressant de voir qu'est-ce qui, au fond de ma foi, est planté et qui me fait penser que ça fait vraiment avancer l'histoire. Ce qui fait avancer l'histoire dans l'Apocalypse, selon Jean, c'est un agneau. Ce n'est pas un monstre. C'est un discours sur le pouvoir, dans la Bible elle-même. Quand Jésus vient, il fait quelque chose qui est assez incroyable. Il enseigne, il ramène à lui un ramassis de gens qui sont souvent des laissés pour compte de la société de colonisation qui était la Palestine du temps de Jésus. Et il donne sa vie. Ça s'appelle la croix. Si on réfléchit à la croix, c'est un instrument de supplice pour quelqu'un qui se révolte. En même temps, vous avez ces affirmations assez incroyables que, par la croix, il a désarmé les puissances, les pouvoirs. Vous avez déjà lu ça. Et il faut essayer de le comprendre. Colossiens 2, 15, parce qu'il est question de notre sujet. Il, Jésus, a dépouillé les dominations et les autorités et les a livrées publiquement en spectacle en triomphant d'elles par la croix. Et son moyen de victoire n'était pas une mode de conquête violente, mais le fait de rester sur place, de donner une parole et de rester présent et de ne pas prendre la vie des autres, mais de donner sa vie à lui. C'est la croix. La croix est une manière pour lui de vaincre le mal en faisant le bien. Maintenant, la question, c'est, je suis formaté pour penser qu'il faut vaincre le mal en faisant le mal. Parce que c'est juste. Ici, ça va plus loin que ça. Je vainc le mal en faisant le bien, en donnant sa vie. La croix comme moyen de vaincre le mal, une renonciation à sa volonté d'imposer. Ce Christ-là est ressuscité d'entre les morts et a comme projet d'être un prototype pour une création nouvelle. Et nous y venons, puisque nous parlons du pouvoir. Le pouvoir a été donné au Christ, d'après l'évangile selon Matthieu, nous le savons à cause de l'ordre missionnaire. Tout pouvoir m'a été donné pour qu'on ne se trompe pas dans le ciel et sur la terre, pour nous reformater nos définitions de pouvoir. Et c'est alors qu'il dit « Allez, faites des apprentis ». Du pouvoir comme service. Allez, faites des apprentis, des disciples de toutes les nations. Et je trouve ça intéressant et ça légitime notre sujet comme nous l'avons ici. Je vais sauter Église et pouvoir. Il y a des exemples magnifiques de ce qui se passe au travers des siècles. Et il y a des contre-exemples déplorables. Je vous montre juste une chose. Je vais zapper pour aller un petit peu en avant. Vous avez Luther qui, avec la seule force de la parole, a défié l'empereur. D'accord ? Seule force de la parole. Au début, le jeune Luther faisait ça. Le jeune Calvin aussi. C'est seulement que plus tard que Luther et Calvin vont s'appuyer sur le pouvoir pour réprimer les hérésies. D'accord ? Ce en quoi je ne suis pas du tout. Vous avez Martin Luther King, d'accord ? Le pouvoir n'est pas toujours là où on le croit. Quand des gens se mettent d'accord pour faire quelque chose de bien ensemble, ça peut être la fin d'un pouvoir mauvais. Ce qui est, c'est pas compliqué en politique, il suffit d'avoir une bonne conscience, et pour ça, il faut avoir une mauvaise mémoire. Je vous dis ça pourquoi. Le peuple francophone d'Europe, en ce moment, a réagi contre l'Église, dans sa majorité. Et la Suisse est intégrée, à cause des abus de l'Église. Autrement dit, le francophone, il a là, dans sa tête, ne donnez jamais le pouvoir à l'Église, parce que quand ils l'ont, ils vont faire la guerre des religions. C'est l'un des grands obstacles à la conversion et à l'évangélisation des gens aujourd'hui. Si nos églises ne deviennent pas des lieux où on est safe en matière de pouvoir respectueux, ça ne sert à rien d'annoncer l'Évangile. Dans mon bulletin, il y avait souvent marqué « peut mieux faire ». Et je pense que c'est valable pour nous aussi aujourd'hui. La chrétienté a introduit quelque chose dans la définition même de l'Évangile, qui est une corruption de l'Évangile. Laissez-moi vous montrer cet endroit un peu satirique. Vous avez un officier romain qui utilise le nouveau logo, qui est le qui de Christos et le pro de Christos, le Christ. Messieurs, le service marketing de Très-Haut m'a envoyé le nouveau logo. Ça va déchirer, effectivement. On peut utiliser les choses de l'Évangile pour faire du mal. Laissez-moi vous dire, l'Église, dans son orthodoxie, a adoré le Christ au ciel sans le suivre sur la terre. Adorer le Christ à la droite de Dieu sans le suivre de sa vie, c'est une hérésie qui s'appelle l'hérésie de la chrétienté, c'est-à-dire de cette institution chrétienne qui a abusé de l'autorité pour réprimer au nom du Christ, pour forcer les consciences. Imaginez-vous, l'empereur se convertit au IVe siècle, disait-on, tout le monde avait intérêt dans l'Empire à faire des genouflexions devant le Christ. Et du coup, les forums se sont transformés en énormes salles où convergeaient toutes sortes de gens qui n'étaient pas convertis, mais qui extérieurement l'ont fait, mais qui intérieurement ont continué avec les schémas de pensée anciens. L'Église était débordée. Je n'ai pas de cailloux à jeter, je dis juste, là il s'est passé quelque chose qui est pour nous intéressant, et je passe sur quantité d'édits, qui montre l'évolution entre l'Église persécutée, mais elle était dynamique dans sa suivance de Jésus-Christ, jusqu'à une Église qui est tolérée. Jusqu'à là, je n'ai pas de problème. Après, c'est une Église qui est favorisée, et là, il y a un problème. Et une Église qui, non seulement est favorisée, mais qui commence à persécuter ceux qui ne plient pas leurs genoux. Vous comprenez ? N'oubliez pas, ils ont toute la police et toute l'armée à leur service. L'armée de l'Empire. Et c'est pour ça que je fais une grande différence, à cause du pouvoir, entre christianisme et chrétienté. Vous arrivez à comprendre la différence ? Elle me paraît importante. Et c'est à ce moment-là qu'apparaissent, au courant des siècles, des dissidents qui portent différents noms, qui disent « pas ça, plus ça ». Oui. Oui. Alors, donc là, c'est ce que je laisse pour ceux qui voudraient le méditer. Je pense à une des pensées de Pascal en la question. Bel état de l'Église quand elle n'est plus soutenue que de Dieu. Bel état de l'Église quand elle n'est plus soutenue que de Dieu. Donc c'est un apprentissage qui n'est jamais terminé. Et au sujet de cet apprentissage, j'aimerais rentrer dans des choses concrètes. Ça a été trouvé à Berlin, on ne sait pas de quand ça date et de qui ça vient. Mais vous voyez qu'il y a l'épée de la parole de Dieu tout en bas au milieu, la Bible. Il y en a qui le prennent par le fourreau, il y en a qui le prennent de la bonne manière. Et parmi ceux qui prennent par le fourreau, on voit des gens puissants, des couronnes, vous voyez ça ? Des empereurs et des rois. Et vous avez des processions, et vous avez un crucifix avec un Christ, et vous avez certainement l'Inquisition derrière aussi, avec des gens qui sont mis à mort. Et de l'autre côté, vous avez des gens qui renoncent à l'abus de pouvoir et qui ne prennent que l'idée que le pouvoir est là pour servir Ils ont été catéchisés par la Bible. Le moteur des abus est quelque chose qui se trouve à la fois en nous et à la fois à l'extérieur de nous. Il y a des conformismes qui viennent de l'extérieur, des dominations et des autorités, et il y a des désirs qui viennent de, égoïstes et méchants qui viennent de l'intérieur. Et sur la question du pouvoir, il s'agit de mener un combat sur les deux fronts. Je vous ai dit tout à l'heure, c'est utile de repérer et d'homologuer nos propres violences intérieures. Si on ne les expose pas, ils ne nous serviront pas au service. De même, il s'agit de mettre un nom devant les forces de conformisme extérieur. À quel moment j'ai intérêt à faire comme le veut le patron, ou comme le veut l'État, ou comme le veut ma race, ou comme le veut ma langue? Ce qui me paraît important de retenir, et c'est vrai pour toutes les églises, quelle que soit la confession de foi, c'est que quand on amène une réforme biblique, suit assez rapidement, et peut-être même en nous, cette force de corruption qui peut se trouver. La lutte, qui s'appelle un combat spirituel, c'est pas une photo réelle, ni pour Jésus, ni pour le diable, d'accord ? En quoi elle consiste ? Qu'on ait à la mener, ça va de soi. Mais en quoi elle consiste est quelque chose qui me paraît important à réaliser, à résister contre des structures de pensée, des mentalités, des formatages de l'injustice. Ça, vous connaissez ? De la tour de Constance ? Elle a gravé « résister ». La question est de savoir comment on va le faire. Le plus résister de la manière la plus bienveillante possible, sans abus de la force. L'Église et nos vies, lieu de transformation et d'apprentissage, comme dernier chapitre que nous avons. Nous ne sommes pas impuissants. Pour Jésus, nous ne sommes pas impuissants devant ce qui nous influence. Il me paraît trop optimiste, le Seigneur, en bien des paroles qu'il donne. S'ouvrir à la grâce et à la restauration de Dieu pour que nos vies soient réorientées, c'est une solution importante. Mais je crois que le Seigneur nous invite à considérer le pouvoir de manière positive. Si le pouvoir est de la bienveillance exercée sur autrui, alors je dois pouvoir rendre grâce à Dieu pour le pouvoir qui est le mien. Et nous avons tous du pouvoir. L'apprentissage du pouvoir, nous l'avons par Jésus. Voici le roi. Je sais qu'il manque les trompettes et puis le tapis rouge, mais il rentre comme un prophète sur le petit d'une ânesse. Prenez sur vous mon joug. Donc il y a quelque chose à porter. Apprenez de moi. C'est pour ça que nos cultes existent, entre autres. Car je suis doux ou non violent et humble de cœur. Et vous trouverez le repos de vos situations, de vos âmes. Matthieu, chapitre 11, verset 29. L'antidote à la volonté de pouvoir et cette volonté de paraître plus blanc que mon voisin, se retrouve lorsque les deux personnes ont voulu être les premiers par rapport aux 10. Ça a permis que les 10 autres disciples s'indignent. Et on trouve dans l'Évangile selon Luc, chapitre 20, cette parole. Mais Jésus les appela et leur dit, « Vous le savez, les chefs des nations les tiennent sous leur pouvoir et les grands sous leur domination. Il ne doit pas en être ainsi parmi vous. Au contraire, si quelqu'un veut être the first, grand parmi vous, qu'il soit votre serviteur. Et si quelqu'un veut être le premier parmi vous, qu'il soit votre esclave. C'est ainsi que le Fils de l'homme est venu, non pour être servi, mais pour exercer la domination par le service et donner sa vie en rançon pour la multitude. » Jésus nous laisse aussi le lavement des pieds comme matérialité d'apprentissage pour l'exercice du pouvoir. Alors, quand je pense concrètement à l'Église du Nouveau Testament, comment elle a exercé le pouvoir de manière non pas asservissante, mais servante? D'abord, il y a le seul exercice de l'autorité par la parole. Il n'y a pas de prison dans les églises. J'ai visité, il n'y a pas. 1 Corinthiens 12, verset 24, me paraît être remarquable pour l'orientation de nos pratiques fraternelles. 1 Corinthiens 12, 24, Dieu a composé le corps en donnant plus d'honneur à ceux qui en manquent. Où est-ce que doivent être l'attention pastorale et relationnelle dans ceux qui manquent d'honneur? Il y en a toujours dans une église. Il ne s'agit pas de se retourner dans la clique de ceux qui étaient dans la même troupe de scouts que moi. L'église, c'est pas qu'une clique. C'est quelque chose de dynamique où je dois faire attention à ceux qui manquent d'honneur pour donner de l'honneur. Par exemple, vous avez aussi les charismes. J'aime beaucoup le rectificatif. Il ne suffit pas d'avoir un tas de charismes pour que ce soit l'Église. Le charisme par amour, c'est autre chose que le charisme tout seul, pour l'autopromotion. Ça existe, le charisme pour l'autopromotion. Ce n'est même pas un charisme, parce qu'il n'est pas donné, il est pris. Ici, l'apôtre Paul dit, mais que ce soit pour l'édification commune, pour le bien commun, et du coup, c'est récupérable. Sinon, c'est autopalmarès. Le même, la gestion du pouvoir, fruit de la richesse du projet de réconciliation, il est dit que l'Église existe avec cette attention aux petits. Et remarquez bien, pour que désormais les autorités et les pouvoirs dans les cieux, c'est-à-dire dans les dominants, connaissent grâce au concret de l'Église, pour que les autorités de Nyon ou du canton connaissent par le comportement de l'Église évangélique, la fraternelle, par exemple, par la manière d'intégrer les minorités. C'est précisément ce pourquoi existe le politique, c'est pour intégrer les gens, pour qu'il y ait une visibilité, pour qu'il y ait une visibilité par rapport aux politiques, dans Éphésiens chapitre 3, versets 10 à 11. L'Église est ainsi nouvelle humanité, un lieu où il fait bon vivre pour tout le monde. Laissez-moi vous dire, quand on me demande qu'est-ce que c'est que le royaume de Dieu, j'utilise souvent ça. C'est une création guérie. Jésus est venu pour ça. Et ça a commencé, et ça continue. Là apparaissent une manière de fonctionner fraternellement et qui touche également l'économie. Ainsi, nous exerçons un pouvoir, vous avez différents métiers. Certains sont encore en apprentissage. Mais si le pouvoir devient service, même mon métier peut prendre la dimension de restauration. Laissez-moi prendre 4 métiers, on pourrait continuer la liste, d'accord? L'enseignant s'occupera pas que des bons élèves. Mais l'attention de l'enseignant chrétien ira également sur les élèves en difficulté. Ça ne va pas de soi pour tous les enseignants, j'aimerais vous dire. Le fonctionnaire, où qu'il soit, s'occupe pas seulement du travail dans ce qui lui est demandé, mais aussi de la qualité du service rendu aux administrés. On est un autre fonctionnaire si on fait ça, si on fait juste le strict minimal. Le cadre, ou quelqu'un qui a des responsabilités, écoutera aussi les salariés sous les ordres, pas seulement les patrons, pour faire le lien de tension entre les intérêts des uns et les intérêts des autres. Le juriste ou le politique chrétien prendra les revendications des démunis et cherchera à les transformer en droit pour eux. Ce sera une autre qualité de juriste ou de politicien. Et le pasteur sera aussi vigilant aux marginaux et aux délaissés. Voilà l'image conclusive. La mission du corps du Christ continue en ses membres. Il est bon, aujourd'hui déjà, de se laisser rejoindre par la souveraineté du Seigneur, qui certes nous cueille comme nous sommes, mais nous oriente aussi afin que notre vie soit plus aimante et de ce fait aussi est un témoignage plus crédible. Voici pour la conférence d'aujourd'hui. J'aimerais vous remercier pour votre attention.